Vous êtes sur RTL. RTL Grand Soir.
Christophe Pacaud.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Grand Soir. C'est votre rendez-vous avec l'actualité de votre journée à tête reposée. Avec à la une ce soir, un président qui fait marche arrière, Abdelaziz Bouteflika, devant la pression de la rue, renonce donc à se présenter pour un cinquième mandat à la présidence de la République algérienne. Dossier complet dès le début de ce journal. Le premier jour du procès de Bernard Tapie, jugé pour escroquerie sur l'arbitrage à 400 millions dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Tous les regards étaient fixés aujourd'hui sur l'homme d'affaires, fatigué, malade, mais toujours aussi combatif. Zizou, le Messi du Real, c'est un plus gros défi, c'est une deuxième fois, a-t-il déclaré il y a quelques instants, 9 mois seulement après son départ du club madrilène. Zinedine Zidane revient pour remettre de l'ordre dans la Maison Blanche, c'est comme ça qu'on surnomme dans le monde du football l'édifice Real Madrid. La météo, ce sera contrasté mais doux demain. À 22h20, votre magazine de l'écho va parler, tiens, d'une boisson ancestrale, oui peut-être la boisson de votre enfance dans les balades, l'antésite. Et puis à 22h25, invité VIP ce soir d'RTL Grand Soir, notre Laurent Gérard National pour évoquer ensemble son rendez-vous annuel avec ses amis du monde du spectacle au ski à Valsenis avec comme invité vedette Carla Bruni dont on vient de parler ce soir avec Thomas Hugues et Sidonie Bonnec. Plus que jamais, vous êtes bien sur la première radio de France.
RTL Grand Soir.
Christophe Pacaud.
Et donc devant la pression de la jeunesse algérienne de plus en plus importante, chaque vendredi à travers tout le pays, le président Bouteflika, 82 ans, a renoncé ce soir à briguer un cinquième mandat. Et l'élection présidentielle est du coup, Sinédier, du 18 avril, reportée, repoussée. Vous êtes dans les rues d'Alger, Reda Menassel.
Place Audin, en plein cœur d'Alger, les gens se réunissent pour fêter ce qu'ils qualifient de véritable victoire après presque 3 semaines de contestation ininterrompue. Le président de la République a enfin annoncé qu'il reportait l'élection présidentielle et surtout annonce de taille qui ne serait pas candidat. Autre surprise pour les Algériens, le président est apparu sur les premières images diffusées par la télévision publique. Alors des changements au niveau du gouvernement sont au menu avec le remplacement du Premier ministre, mais aussi, et c'est une grande première, la création d'un poste de vice-premier ministre. Le président s'est en outre engagé à tenir la fameuse conférence nationale inclusive dont il parlait dans ses précédents messages, sorte de grand débat qui devrait accoucher à terme d'une révision de la Constitution, d'une date pour les élections et surtout d'une commission électorale indépendante pour organiser les élections présidentielles.
Merci à vous Reda Menassel, Alger pour RTL. Parmi les réactions ce soir, celle d'Aouicha Bekti, elle est militante féministe et manifestante. On vient de la joindre, c'est Sinamir qui lui a passé un coup de téléphone.
C'est extraordinaire, sincèrement on a rêvé, ils l'ont fait quoi. Nous les générations d'un peu avant, on s'est dit est-ce que ça va arriver? Eh bien c'est arrivé, ils l'ont fait, mais ce qui est plus extraordinaire, c'est la passivité et la maturité, surtout des manifestants. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, vous ne pouvez pas imaginer ce qui est en train de se passer entre nous, entre Algériens, depuis quelques semaines. On se retrouve. Je me dis, ben voilà, la volonté populaire est en train d'aboutir, mais c'est que le début. Hein. J'espère que le reste suivra et que les Algériens restent mobilisés pour récupérer réellement la souveraineté du peuple. Hein. C'est vraiment une très bonne nouvelle et le combat continue, comme on dit, dans la rue. Voilà.
Le combat continue. Aouicha Bekti avec Sinamir. La France, elle, salue ce soir, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, la décision d'Abdelaziz Bouteflika de ne pas briguer un cinquième mandat et appelle à prendre des mesures pour rénover le système politique algérien. À la fin de ce journal, dans 10 minutes, nous recevrons Kader Abderrahim. Il est professeur à Sciences Po pour aller un peu plus loin après cette annonce.
RTL Grand Soir.
Avec Christophe Pacaud.
L'autre actualité du jour, c'est officiel. Depuis 20h, Zizou, le retour, c'est donc acté au Real Madrid après l'élimination en 8e de finale face à l'Ajax d'Amsterdam la semaine dernière. Les dirigeants madrilènes ont donc fait appel à celui qui leur a fait soulever la fameuse Coupe d'Europe aux grandes oreilles 3 fois consécutivement ces dernières années. Zizou, tout heureux de s'offrir un deuxième mandat à la tête de ce club prestigieux.
Je sais que ce jour est spécial.
Je sais que c'est un jour spécial pour tout le monde et je suis très content. C'est la chose la plus importante. Comme l'a dit le président, je suis heureux de rentrer à la maison. Vous allez me poser plein de questions, mais je n'ai rien d'autre à dire sauf que je suis heureux de revenir. Je veux contribuer à ramener ce club au niveau où il doit être. Ce qui m'importe, c'est de travailler à nouveau dès demain.
L'unico para mí Es mañana empezar a trabajar y ya está.
Et oui, demain, retour en survêtement donc pour Zinedine Zidane avec Mathias Valton ce soir à l'issue de la conférence de presse. Notez encore en football que le match OL Montpellier prévu samedi prochain, 17h, a été reporté à une date ultérieure. Changement de règle en Formule 1 pour rester dans le sport un instant. Dès dimanche, pour le premier Grand Prix de la saison en Australie, un point supplémentaire sera octroyé au pilote qui aura réalisé le meilleur tour en course. Il lui faudra tout de même terminer dans les 10 premiers. RTL Grand Soir 22h05, une question. S'agit-il d'escroquerie à l'État français? C'est tout l'intérêt, tout l'enjeu de ce procès qui s'est ouvert aujourd'hui au Palais de Justice de Paris pour ce fameux arbitrage à 400 millions d'euros censé solder le différend de Bernard Tapie avec la Banque du Crédit Lyonnais. Arbitrage annulé, on s'en souvient, pour fraude et jeu d'influence dans cette décision en sa faveur. Bernard Tapie, dès le premier tour d'audience en tout cas, a fait du tapis, Alice Moreno.
Oui, quand l'homme d'affaires de 76 ans apparaît dans la salle comble, le silence s'installe. Le public observe ce Bernard Tapie aux joues creuses et aux traits tirés. Son costume bleu foncé qui tranche avec ses cheveux blancs. Il se dirige d'un pas lent vers le banc des prévenus, serre les mains de quelques avocats. « Je suis fatigué, très fatigué », murmure-t-il. Puis il fait volte-face et scrute alors les journalistes. « Regardez cette belle brochette, ils sont tous là », lâche-t-il. Bernard Tapie, l'imprévisible, fond alors sur la presse et prend à partie un de nos confrères. Vous me direz d'où vous sortez cette somme de 500 millions que je dois soi-disant rembourser. Le tribunal entre alors. Tapie est appelé à la barre pour confirmer son identité. Votre profession, monsieur Tapie, acteur, indique la présidente à l'audience. Une pointe d'interrogation dans la voix. Il acquiesce d'un mouvement de tête. L'audience est suspendue au beau milieu de la salle. Le spectacle Tapie reprend. Il interpelle de nouveau les journalistes sur un ton plus chaleureux cette fois. La vraie vérité, je vais vous la dire, c'est que je ne dois rien, martèle-t-il avant de conclure. Et surtout, vous signez tapis.
Alice Moreno, Palais de Justice de Paris pour RTL. Emmanuel Macron a décidé, lui, de saisir le Conseil constitutionnel sur la loi anticasseurs. Texte controversé, on le sait, que les membres de la majorité même souhaitaient atténuer, notamment revoir l'article 2, qui donne le pouvoir au préfet pour interdire à certaines personnes le droit de manifester. Le procès de Medine Mouche et un verdict qui est attendu ce soir, tard dans la soirée, justement dans la nuit, ou demain matin à Bruxelles. Medine Mouche qui est jugé pour meurtre terroriste au musée juif de la capitale belge en mai 2014. Prison à vie, requis contre le terroriste qui, ironique au moment de quitter le box accusé, a déclaré dans un sourire en coin, je cite, « La vie continue ». Les deux boîtes noires du Boeing 737 d'Ethiopia Airlines qui s'est écrasée hier matin en Afrique ont été retrouvées cet après-midi. La catastrophe, on le rappelle, a fait 157 morts, dont 9 ressortissants français. Et ce soir, Arnaud Touche, 2 de ces 9 victimes françaises ont été identifiées.
Oui, la première s'appelle Sarah Offret. Elle avait 35 ans. Cette franco-britannique était originaire de Kérien, dans le Finistère. La jeune femme se rendait à Nairobi pour un congrès. Elle travaillait pour une association qui proposait des expéditions dans l'Arctique. Marie Sturcy, correspondante à Ouest-France, l'a interviewée plusieurs fois quand elle rentrait en Bretagne, racontait ses aventures. Elle est interrogée par Nicolas Bobby.
C'est difficile à croire, ça m'a touchée. Une fille entière, très lumineuse, les pieds sur terre, une belle fille de l'intérieur. Très engagée, et plus ça allait, plus elle était engagée. Sa dernière action, c'était le plastique sur les plages de l'Antarctique. Donc c'était dans un endroit où les courants apportaient tous les plastiques.
Autre victime connue, Karim Saafi, 38 ans, un franco-tunisien. Il devait prendre la parole devant le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine à Nairobi, au Kenya. Il était très engagé pour le développement de l'Afrique et notamment pour promouvoir la jeunesse africaine. Toutes les familles des victimes ont été prévenues, mais on ne connaît pas encore l'identité des 7 autres ressortissants français qui avaient pris place à bord du 737 MAX d'Ethiopian Airlines.
Merci beaucoup Arnaud Touche pour RTL. C'est le deuxième accident sur type d'avion. La Chine et l'Indonésie ont décidé dès hier d'immobiliser leur flotte et les États-Unis se disent prêts à en prendre des mesures immédiates et appropriées si nécessaire après enquête des bureaux compétents. Manifester ou débattre lors de la journée mondiale des adolescents pour le climat ce vendredi. Pas simple en tout cas de pouvoir et de vouloir garder nos chères têtes blondes dans leur établissement. Et ce, dans 4 jours seulement maintenant, Marie Guerrier. Alors vous êtes rendue cet après-midi en immersion au lycée Charlemagne à Paris.
Oui, organiser un débat dans les lycées pile le jour où un appel à manifester est lancé. Pour cet élève de terminale, l'objectif du ministre est simple.
Oui, il n'a pas envie de voir des gens dans la rue, quoi. C'est clair, enfin, de toute façon, on ne peut pas s'attendre à autre chose.
Anatole et Martin sont élèves en première.
On ne savait pas qu'il allait y avoir un débat. Moi, je pense que j'irais plutôt manifester.
Si on va dans la rue, on montre qu'on peut quand même avoir un poids politique.
Et c'est bien l'avis de Maria et ses amis de seconde qui manifesteront vendredi.
C'est vraiment un événement mondial. Ma petite sœur qui est au collège, elle va y aller.
Ouais,
enfin, tout le monde y va. Ça va vraiment être quelque chose d'énorme.
On fait passer l'environnement avant nos études parce que l'environnement aura plus d'impact que nos études.
Alors quand le ministre fixe comme objectif au débat d'aboutir à des propositions d'action dans les lycées...
C'est pas dans les lycées qu'il faut agir, c'est dans le monde, c'est au quotidien.
Les centrales nucléaires, c'est un peu dérisoire de nous dire faites un débat sur ce qu'on veut changer dans les lycées. Le débat est déjà fait, ça me semble très clair.
Faut qu'il se passe des trucs maintenant, faut que le gouvernement et le monde entier comprennent qu'il faut agir.
Oui, le plus tôt possible, dit-elle. Les proviseurs, eux, ont 4 jours pour organiser le débat qui devra se tenir entre 16h et 18h vendredi avec les élèves qui n'auront pas
d'accord. Merci beaucoup Marie Guerrier, spécialiste éducation de la Première Radio de France. Votre météo pour demain, et visiblement ce sera plus stable. Patricia Charbonnet, bonsoir.
Bonsoir à tous. Les conditions météo seront plus calmes demain dans l'est et le sud du pays avec le retour d'un temps sec après les fortes giboulées de ce début de semaine. Un temps sec avec simplement un ciel légèrement voilé alors que sur le nord-ouest du pays, le temps sera agité avec une nouvelle perturbation active qui va arriver dès demain matin par les côtes de la Manche. Cette perturbation donnera des pluies localement soutenues et surtout, elle s'accompagnera de fortes rafales de vent. Nouveau coup de vent attendu sur les côtes de la Manche avec des rafales à 110 km/h. Le tout avec des températures fraîches en matinée. Quelques gelées, moins 2 degrés à Nevers, moins 1 degré à Lyon, 2 degrés à Montélimar, 4 à Lille et 9 à Brest. Et de 11 à 21 degrés dans l'après-midi, 11 degrés à Lille, 13 à Paris et Bordeaux, 16 à Lyon, 19 degrés à Cahors et 21 degrés à Pau.
Merci mille fois Patricia Charbonnier.
RTL, sur la route du grand débat.
Épisode 8, on va s'intéresser ce soir avec vous Gauthier Delon-Bugard à la crise du monde agricole. Vous êtes donc rendu pour RTL en Mayenne où nombre de paysans s'activent pour trouver des solutions pour s'en sortir.
Il faut monter dans la voiture à la carrosserie maculée de boue de Damien pour se rendre sur son exploitation. Par la fenêtre, le trentenaire nous montre au loin, derrière les barbelés, le pré vert où broutent et gambadent ses 80 vaches laitières.
Là, mes vaches sont là-bas et donc là, on retourne dans mon exploitation. On arrive dans la salle de traite.
Ce jeune agriculteur décide de se lancer il y a 5 ans. Il reprend une vieille ferme avec l'aide de ses parents, mais la reprise se passe mal et la vente du lait ne suffit plus à combler les dettes.
On perdait 25 000 euros par an, qui se retrouvent aujourd'hui en trou dans la trésorerie.
Damien, père d'un petit garçon de 2 ans, se verse seulement 800 euros de salaire par mois.
C'est pas digne d'un pays comme la France, quoi. On se lève le matin à 5h30 ou 6h, on arrive chez soi le soir à 20h et au final, c'est très compliqué de s'en sortir et de s'en défaire, quoi.
Quelques fermes plus loin, dans le village voisin de Jublin.
C'est des jerseyaises, petites vaches rustiques.
Nicolas, producteur laitier de 37 ans, a connu cette situation.
Je ne savais plus quoi faire et pour moi, c'est invivable.
Grâce à l'aide de l'association Solidarité Paysan, spécialisée dans l'écoute des agriculteurs en difficulté, Nicolas a pu relancer son activité.
Les bénévoles de Solidarité Paysan nous ont ouvert les yeux sur toutes les solutions possibles dans le monde agricole aujourd'hui.
Du bio, une exploitation plus petite, avec moins de charges à payer.
Il y avait d'autres solutions que le système intensif. Garder une exploitation à taille humaine, c'est hyper important. Ça nous a aidé à nous relancer et surtout repris confiance en nous.
Jean-Claude Lebrun fait partie de l'association qui vient en aide à plus de 60 familles en Mayenne.
Une porte de sortie, c'est d'orienter les agriculteurs vers des systèmes un peu plus indépendants, plus autonomes. Ça les aide souvent à remonter la pente.
Chaque année, à travers tout le pays, les bénévoles parviennent à remettre sur pied plusieurs centaines d'exploitations.
Gauthier Delon-Bugard, reportage en Mayenne donc aujourd'hui. À demain pour l'épisode 9. Une dernière minute avec le Parlement vénézuélien qui vient de décider de décréter l'état d'alerte à la demande de son nouveau président Juan Guaido pour cause, vous le savez, de 4 jours de panne d'électricité dans le pays pour l'instant.
RTL Grand Soir.
Christophe Pacaud.